Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Ravi de vous retrouver, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, nous parlerons de la Guinée où depuis le début du mois, le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement sont en immersion à l'intérieur du pays. Officiellement, cette tournée vise à rapprocher les autorités de la population et à prendre en compte les réalités du terrain. Seulement voilà, une partie de la société civile y voit surtout une campagne déguisée pour soutenir la candidature du général Doumbouya. Alors que vous inspire cette initiative ? Immersion gouvernementale ou pré-campagne électorale ? On en débat dans 30 minutes. Vous continuez à nous appeler, le sujet ne vous laisse pas indifférent. Des dizaines et des dizaines de commentaires envoyés sur le compte WhatsApp de l'émission. Vous continuez à nous rejoindre, on vous attend évidemment au standard 33 9 693 693 70. Mais d'abord, votre rendez-vous pour mieux comprendre l'actualité, ce sont vos questions. Bonjour Youssounon.
Bonjour Anne, bonjour à Adrien Delgrange du journal En Français Facile.
Ah, on salue Adrien Delgrange qui doit certainement nous écouter. Merci en tout cas de ses encouragements. Youssounon, vous êtes à Parakou, dans le centre du Bénin, et vous avez des questions sur le système carcéral au Sénégal.
Je vais expliquer que je suis dans le nord du Bénin.
Ah oui, nord du Bénin. Oui, quand on regarde la carte, effectivement, c'est plus au nord qu'au centre. Mais enfin, vous n'êtes pas tout à fait au nord du pays. Mais enfin bon, arrêtons le cours de géographie, on vous écoute.
Ok, un rapport de l'ONU fait état d'une grave surpopulation carcérale au Sénégal. Ma première question, qu'est-ce qui explique une telle situation dans les prisons sénégalaises ? Pour finir, quelles mesures peuvent être envisagées par les autorités pour lutter contre ces mauvaises conditions ?
Oui, environ 14 000 détenus pour seulement 10 000 places disponibles. Un niveau de surpeuplement qui, selon la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la torture, équivaut, je cite, à un traitement inhumain. Bonjour Léa-Lisa Vesterhoff.
Bonjour Juan, bonjour Youssounou.
Correspondante permanente de RFI à Dakar, comment expliquer une telle situation dans les prisons sénégalaises ?
Bien plusieurs éléments, bien sûr, expliquent cette surpopulation. D'abord, le recours encore trop fréquent à des détentions préventives. La rapporteuse spéciale de l'ONU le pointe d'ailleurs du doigt dans son rapport, c'est-à-dire qu'en cas d'inculpation, le juge, plutôt que de prononcer une liberté provisoire, va choisir la détention préventive jusqu'à ce que l'affaire soit jugée. S'ajoute à cela un manque d'avocats, un manque de magistrats, ce qui mécaniquement prolonge la durée de l'instruction et donc cela peut durer très longtemps jusqu'à ce qu'une affaire soit jugée. Au Sénégal, la détention provisoire peut aller jusqu'à 6 ans dans l'attente d'un procès, Juan.
Ouais. Et autre élément qui contribue à la surpopulation des prisons, ce sont des lois assez répressives.
Oui, le code pénal prévoit l'incarcération pour des délits assez mineurs, comme la détention de chanvre, par exemple. Autre exemple, dans un pays où l'avortement, même en cas d'inceste ou de viol, est interdit, la majorité des femmes qui sont en prison, par exemple, le sont pour infanticide, qui en réalité est généralement un avortement clandestin. De façon générale, c'est la détention qui est envisagée par les juges plutôt que la liberté conditionnelle ou la probation, y compris pour des infractions de type propos diffamatoires tenus sur les réseaux sociaux ou dans les médias, par exemple. Les associations de défense des droits de l'homme comme Amnesty International demandent donc depuis longtemps une réforme du code pénal et dénoncent une culture punitive du ministère public au Sénégal. Enfin, un dernier élément qui contribue à ces conditions inhumaines de détention telles que les a qualifiées la rapporteuse de l'ONU sur la torture, l'état vétuste des prisons, pas assez rénovées. Elles sont dans des locaux qui ne sont pas adaptés aux normes modernes, l'a dit la rapporteuse spéciale. La construction de nouvelles prisons est encore trop rare, comme à Fatick, dans le centre du pays, par exemple.
Youssounon nous demandait quelles mesures les autorités envisageaient de prendre justement pour lutter contre ces mauvaises conditions.
Alors depuis près de deux ans, depuis 2023, le Sénégal a commencé à avoir recours aux bracelets électroniques pour désengorger ses prisons, mais cela concerne encore une minorité de personnes. En mai dernier, lors d'Assises nationales de la justice, a été proposée par la société civile la mise en place d'un juge des libertés pour éviter le recours trop fréquent à la détention préventive, justement, mais ce juge n'a pas encore été mis en place. Enfin, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la torture, Alice Jill Edwards, propose plusieurs mesures, comme celle de réduire, par exemple, automatiquement de 20% les peines de tous les détenus condamnés à plus de 3 ans de prison ferme. Elle préconise aussi que tous les prisonniers placés en détention provisoire depuis plus d'un an, sauf pour les crimes graves, bien sûr, soient libérés dans l'attente de leur procès. Tout cela pour désengorger, libérer un peu ces prisons. Les autorités n'ont pas encore réagi à ces recommandations. Les défenseurs des droits de l'homme, de leur côté, appellent en tout cas à une réflexion en profondeur sur la politique pénale au Sénégal.
À suivre, et on peut en débattre et en parler vendredi dans la Libre Antenne si le sujet vous intéresse, bien évidemment. Youssou Non, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
Merci Juan, merci à Léalisa Westeroff, votre correspondante à Dakar.
Merci de vos encouragements. Youssou Non, puisque vous êtes au Bénin, mais ça vous fait un peu loin puisque vous êtes à Parakou. J'en profite d'ailleurs pour rappeler aux auditeurs que la semaine prochaine, nous serons à Cotonou pour une série d'émissions spéciales, dont notamment une émission en public à l'occasion du 35e anniversaire de la Conférence nationale souveraine, un rendez-vous historique qui a permis au pays de jeter les bases de la démocratie. Toutes les infos sont à retrouver, bien évidemment, sur nos réseaux sociaux. Bonne journée, Léalisa Westeroff à Dakar, où on nous écoute sur les 92 FM. Olivier Pron s'installe. Bonjour Olivier.
Bonjour Juan.
Journaliste au service des sports de RFI. Une fois n'est pas coutume, on va parler tennis.
Et pourquoi pas?
Bah pourquoi pas, car Abdel a des questions à
quel
nous poser
si sport
sur l'affaire Yannick Sinner. Bonjour Abdel.
Bonjour Juan, bonjour Olivier.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Bonjour Abdel.
Ok, le numéro 1 mondial du tennis, Yannick Sinner, est suspendu 3 mois après un contrôle positif au dopage. Comment expliquer cette situation de l'Agence mondiale antidopage alors qu'il encourait 1 à 2 ans de suspension?
Olivier Pron, Yannick Sinner a-t-il bénéficié
fait, moi,
d'un traitement de faveur?
Je ne sais pas. En tout cas, ça n'est pas ce que l'AMA dit, mais ça pose question. Mais le traitement du dopage
L'AMA
dans le tennis...
L'AMA étant l'Agence mondiale antidopage.
Ah oui, je pensais qu'on l'avait effectivement signalé avant, mais non, c'est bien l'Agence mondiale antidopage. Ça fait plus de 20 ans qu'on se pose des questions sur la façon dont le tennis gère les cas de dopage. Parfois, c'est très opaque, parfois, c'est très ouvert. Cela semble dépendre des uns et des autres, du statut que l'on a auprès des jeunes, auprès des anciens, bref. Voilà, ça pose question, mais oui, il encourait 1 à 2 ans, il prend 3 mois, on a vite réagi hein, dans le milieu du tennis. Stanislas Wawrinka, le Suisse, a tout de suite tweeté samedi quand c'est tombé à « I don't believe in sport anymore », c'est un peu définitif, je ne crois plus au sport désormais. Novak Djokovic s'est exprimé ces derniers jours, ce n'est pas bon pour notre sport, la majorité des joueurs ne trouvent pas ça juste, il y a une impression de favoritisme, on dirait que si vous êtes un top player et que vous avez accès aux meilleurs avocats, vous pouvez influencer le résultat. Si vous traitez chaque cas de façon différente, ce n'est pas cohérent. Il y a aussi ceux qui, comme Richard Gasquet, Coboli l'Italien, Ramos l'Espagnol, trouvent que bah, y a rien à redire. On a fait une sorte de cote mal taillée. Pour être clair, ouais, qu'est-ce qu'on lui reproche?
Bah, il s'est dopé.
C'est pas aussi simple que ça.
Il a été contrôlé positif.
Je vous demande de vous arrêter. Un de ses kinés a acheté une pommade en vente libre. Il en avait sur les mains. Il a massé Yannick Sinner. Voilà la version, en tout cas, officielle. Et il a donc inoculé ce produit à Yannick Sinner en le massant. L'AMA, l'Agence mondiale antidopage, concède cette inoculation accidentelle, ce dopage à l'insu de son plein gré. Ça nous rappelle des souvenirs d'il y a 27-28 ans avec un certain Richard Virenque. Qu'elle confirme, l'AMA, que cela n'a en aucune manière amélioré les performances du numéro 1 mondial. Mais elle estime aussi, l'AMA, qu'un sportif est responsable de la négligence de son entourage. C'est pour ça qu'on a cette cote mal taillée. Elle estime que... Il ne sait pas, encore une fois, et elle a même refait un communiqué hier où elle dit que les retours scientifiques qu'elle a reçus dit qu'il ne peut pas s'agir d'un cas de dopage intentionnel, y compris de micro-dosage. Donc,
S'il n'y a pas eu dopage, explique-moi, pourquoi est-il suspendu, même 3 mois?
Eh ben parce qu'elle considère que, encore une fois, il est responsable de son entourage. Donc 1 an ou 2 ans, c'est trop, mais... Pour lui faire attention à l'avenir, elle prend 3 mois. Après, ce qui fait parler, c'est que ces 3 mois-là, mais je crois que c'est l'objet de la deuxième question de notre auditeur.
Abdel.
Oui, en effet. Quel impact cette situation peut-elle avoir sur sa saison sportive ?
Olivier Pron, 3 mois de suspension.
Bah, il ne ratera aucun tournoi du Grand Chelem, ce qui est quand même le Graal. Il va rater 4 Masters 1000, sont les tournois juste en dessous. Ça a un grand intérêt, c'est que ça va relancer la course à la place de numéro 1 mondial, parce qu'il survole le tennis. 6 défaites seulement, 81 victoires depuis 14 mois. Il a remporté les 2 derniers tournois du Grand Chelem. Voilà, il est en vacances forcées jusqu'au début mai. Il sera là à Roland-Garros, certainement pas dans la forme de sa vie, mais il s'en sort plutôt pas mal. Et puis le monde du tennis va revoir toutes ces règles-là. Il y a grand besoin de clarté.
Abdel, a-t-on répondu à vos questions ?
Merci Juan, merci Olivier. À tout à l'heure sur Radio Foot.
Ah, vous serez à Radio Foot tout à l'heure, mon cher Olivier ?
Non, mais non, ça me fait plaisir. Bientôt.
Bientôt.
Bon, la dame est là, la dame est là.
Soirée foot spéciale ce soir sur RFI, soirée Ligue des Champions.
Baba Cardiara en studio pour animer tout ça.
À partir de 19h40, temps universel, avec notamment deux matchs à suivre en fil rouge. Real Madrid, Manchester City.
On sent le supporter.
PSG, Brest.
Il y a un peu moins de suspense de ce côté-là, mais
voilà,
on y sera.
On y sera, bien évidemment. Merci à tous les deux, très belle journée. 9h21 ici à Paris, 33 9 693 693 70. Sam Egache nous rejoint, bonjour.
Oui, bonjour l'ensemble, Juan Gomez, et à toute l'équipe qui vous accompagne, et à tous les auditeurs à travers le monde.
Et merci de nous écouter à Kinshasa. Vous avez des questions après le décret du président Trump renommant le golfe du Mexique en golfe d'Amérique.
Exactement. La présidente mexicaine menace de porter plainte contre Google s'il continue d'utiliser le nom golfe d'Amérique au lieu du golfe du Mexique. J'aimerais comprendre quelle est la procédure pour changer le nom d'une donnée géographique, et notamment ici d'une mer internationale. Qui a le pouvoir de décider ?
Ah, qui a le pouvoir de décider ? En tout cas, conformément aux vœux de Donald Trump, il y a une semaine maintenant, Google a effectivement renommé cette zone géographique. Bonjour Frédéric Giraud.
Bonjour.
Vous êtes professeur de géographie politique à l'Université de Genève. Je précise que vous êtes titulaire de la chaire UNESCO de toponymie inclusive sous l'intitulé « Dénommer le monde ». Je souligne, c'est important Frédéric Giraud, que les internautes qui sont situés aux États-Unis et qui utilisent Google Maps voient désormais le nom du Golfe d'Amérique sur la carte, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui sont basés au Mexique, hein, qui pour eux, il n'y a pas eu de changement, ils voient toujours Golfe du Mexique, et pour le reste du monde, autrement dit pour vous et nos auditeurs, Google nous propose les deux noms. Quelle est la légitimité de ce changement de dénomination, Frédéric Giraud ? Est-ce que Donald Trump en a le droit ?
Alors, merci pour cette question tout à fait passionnante. En fait, il faut bien distinguer la possibilité pour les États et donc les exécutifs de éventuellement renommer des objets géographiques quand il s'agit d'objets géographiques qui sont sous leur souveraineté. Alors, c'est le cas pour une partie infime du golfe du Mexique qui est constituée par les eaux territoriales américaines. Là, on a bien, un espace géographique qui est sous souveraineté des États-Unis. Mmh. En revanche, aux États-Unis, il y a un organisme au niveau national qui peut émettre des avis, puis sinon enregistre les décisions de l'exécutif. C'est ce qui s'est passé pour plusieurs objets géographiques là très récemment. Et puis, comme le souligne l'auditeur, il y a effectivement la question des mers internationales, des eaux internationales. Alors là, on est évidemment sur des objets géographiques qui sont de nature totalement différente. Alors, et on est dans une sorte de flou. Il existe des organismes, il en existe deux au niveau international. Un qui est général sur les noms géographiques, c'est le groupe d'experts des Nations Unies sur les noms géographique, oui. Et puis un qui est plus spécifique sur les questions hydrographiques en général, c'est l'Organisation hydrographique internationale. Alors, bon, ces organismes existent et j'imagine que la présidente mexicaine les saisira. C'est ça son
Mais
objectif.
Quel est le pouvoir, excusez-moi, de ce groupe d'experts des Nations Unies qui doit d'ailleurs, je crois que la prochaine réunion est prévue au mois d'avril.
Absolument. Donc, il y a une réunion prochaine, une conférence. Donc, le pouvoir, il est réduit, si vous voulez. C'est l'objectif de ces deux organisations internationales, c'est de coordonner l'action des organes nationaux et puis d'émettre des recommandations qui vont toujours dans le sens de l'ère de la stabilité, de la fixité, du moindre changement possible. Hein. Mais en même temps, ils ne sont pas habilités à arbitrer in fine, à rendre des arrêts qui seraient officiels et qui s'imposeraient à tous. Donc, sous souvent, ce qui s'est passé, là, il y a déjà eu des conflits de ce type, même si évidemment le contexte était différent. Par exemple, mer du Japon, mer de l'Est. Oui. Eh bien, à chaque fois, ils ont finalement botté un peu en touche en renvoyant à des négociations entre les États riverains. Ce qui est un peu paradoxal puisqu'il s'agit d'eau internationale. Donc, ce n'est pas d'ailleurs que les États riverains qui sont concernés, c'est l'ensemble de la communauté internationale.
Ouais, vous parliez de mer du Japon, mer de l'Est, on peut également citer golfe Persique, golfe Arabique. Autrement dit, Frédéric Giraud, si on peut résumer en deux phrases, oui, Donald Trump a le droit de rebaptiser le golfe du Mexique en golfe d'Amérique uniquement sur la partie américaine.
C'est ça, c'est une partie très réduite. Hein,
oui, les très réduite, parce que le reste c'est le Mexique, Mexique voilà. Et Cuba.
Alors, je vais quand même ajouter quelque chose.
C'est en 30 secondes.
Où s'effectue l'arbitrage ? Eh bien, l'arbitrage, il s'effectue en fait sur les plateformes, parce que c'est elles qui vont diffuser. Mmh. Et c'est bien pour ça que ce que fait Google est très important. Mais il y a aussi d'autres plateformes, il y a notamment une plateforme contributive, OpenStreetMap, qui là, avec des bases sérieuses, rigoureuses, n'a pas obtempéré, si vous voulez, et indique comme nom par défaut le golfe du Mexique, mais par contre indique dans l'affiche qu'il y a eu un changement sur les eaux territoriales des États-Unis.
Merci Frédéric Giraud, professeur de géographie politique à l'Université de Genève. Bonne journée à Mégache, merci de votre fidélité. On termine l'émission avec Tim, également en République démocratique du Congo. Bonjour Tim.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Vous êtes intéressé par la situation dans le sud du Liban, à la frontière avec Israël.
Oui, évidemment. Donc, l'armée israélienne a annoncé maintenir sa présence sur 5 zones stratégiques malgré la fin du délai de leur retrait. En quoi ces positions sont-elles stratégiques pour Israël ?
Ah, bonne question, effectivement. Karim-Émile Bidar va tenter de nous expliquer tout cela. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, chercheur associé à l'IRIS. Théoriquement, selon l'accord de cessez-le-feu, l'armée israélienne aurait dû déjà se retirer du sud du Liban le 26 janvier. Un délai supplémentaire a été accordé donc jusqu'à hier, mardi 18 février. L'armée israélienne est encore présente. Elle est encore présente, effectivement, comme le rappelait Tim à l'instant, sur 5 positions qu'elle qualifie de stratégiques. Expliquez-nous.
Alors en effet, Israël a décidé avec l'accord tacite, l'accord même explicite des États-Unis de rester sur 5 collines qui surplombent la plupart des villages du sud Liban. Et ces collines sont particulièrement stratégiques car elles se situent à une altitude souvent très élevée. Elles offrent donc un avantage topographique significatif puisqu'elles surplombent, elles encerclent à la fois tous les villages du sud Liban et le nord d'Israël. Ça permet à Israël donc de surveiller tout ce qui se passe. Et également, certains pensent que cela pourrait être lié aux ambitions israéliennes sur des ressources hydrauliques présentes au sud Liban. C'est une vieille ambition israélienne qui remonte aux années 1950, même si aujourd'hui la priorité est à l'axe sécuritaire.
Oui, effectivement, c'est ce qu'invoque officiellement Benjamin Netanyahou, hein, la sécurité d'Israël. Tim, votre deuxième question.
Que peuvent faire les autorités libanaises pour obliger les retraits intégral des forces israéliennes.
Les autorités libanaises qui ont déclaré hier que toute présence israélienne sur son sol constituait une occupation. Karim-Émile Bitar.
Il s'agit en effet d'une occupation aux yeux du droit international et je crains de devoir répondre à Tim que les autorités libanaises ne peuvent malheureusement pas faire grand-chose en dehors d'un lobbying, d'un pressing diplomatique, d'insister auprès des États-Unis, de contraindre Israël à respecter cet accord. Le Liban se retrouve quelque peu impuissant. Nous vivons dans un monde où domine la loi du plus fort, la marque politique, les politiques de puissance. Et le Liban est considérablement plus faible qu'Israël. Le Hezbollah est aujourd'hui défait, mais conserve une capacité de blocage politique sur la situation interne libanaise. Donc la seule option que le Liban a choisie, c'est l'option diplomatique pour le moment, en espérant que ces pressions pourront dans quelques mois contraindre Israël à se retirer.
Le Liban qui a donc décidé de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour obliger Israël à un retrait immédiat. Merci infiniment Karim Émile Bitar, enseignant à Sciences Po Paris. Vos explications sont à réécouter à tout moment sur notre application RFI Pure Radio. Reste avec nous, on va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin et on revient dans 10 minutes pour parler de la Guinée et de cette tournée du gouvernement depuis maintenant une dizaine de jours, immersion gouvernementale à l'intérieur du pays ou pré-campagne électorale.